nous avons bu, en mémoire de l'aimé, Elvin, qui nous fit ivre avant que fût créée la vigne. C'est la pleine lune, sa coupe, lui et soleil, un croissant le fait circuler, mélangé que d'étoiles. Sans son arôme, rien ne m'aurait guidé vers sa taverne. Sans son éclat, ne l'aurait pas imaginé l'imaginaire. De lui, le temps n'a préservé qu'un souffle, comme enfoui dans les poitrines des sages un secret tu. Et la division a surgi, alors que tout est un, et nos âmes sont vins, et nos ombres sont vignes. Avant lui, pas d'avant, ni après lui d'après, la préséance des temps et sa nécessité. Avant lui, la longue pression des jours lui fut pressoir, et ce fut l'ère de notre père après lui, l'orphelin. Et ils dirent, tu as bu l'impiété, oh non, mais j'ai bu ce qui, n'étant bu, aurait été mon impiété. Bonheur aux gens du monastère, ils en sont ivres, ne l'ayant bu, ni s'étant levé pour le faire, qu'il pleure sur lui-même, celui qui a prodigué ses années, n'ayant saisi sa part de vin, sa flèche d'augure.
Salah Spéti, dans la tradition spirituelle de l'islam, dans le soufisme, le thème bachique est majeur et nous savons que le vin est interdit en islam. Même si, bien sûr, la présence du vin dans le texte même qu'il interdit, c'est-à-dire le Coran, est ambivalente. Puisque, outre les versets qui concernent l'interdiction, nous avons des versets qui signalent que le vin est un don divin, est une grâce divine, tout autant que le miel, par exemple, et qu'il peut avoir une fonction curative et perçue comme telle, que ce soit chez Razi ou Avicenne. Et dans le Coran même, le vin constitue une promesse, dans l'au-delà et dans le jardin. Et que la manière avec laquelle le vin est magnifié comme promesse, nous pouvons même reconnaître, dirais-je, une connaissance de l'art du vin, puisqu'il est question de vin musqué, de vin donc parfumé, de vin cacheté, un vin qui viendrait de loin, et un vin destiné à être élevé et à vieillir. Je me souviens de ce poème d'Abou Médine, poète sévillant, où il est question d'un vin qui arroserait la tombe du poète pour que, justement, le squelette reste toujours en éveil. Nous retrouvons d'ailleurs ce thème déjà chez Ibn Farb. Poète Garot, dont vous venez de lire ce poème très célèbre qui est chanté jusqu'à ce jour, dans les séances soufis.
Oui, en effet.
Voilà. Le poète qui me paraît le plus impressionnant personnellement dans ce thème, c'est Chochtali, né dans la région de Séville et qui est mort en Alexandrie. Et lui alors, le poème chez lui, sous la forme un peu dans cette langue qui tient compte du vulgaire, la forme zajal, qui crée des poèmes destinés à être chantés. Et chez ce poète, nous retrouvons d'une manière spectaculaire, je dirais, à travers l'exercice du vin, la tentation christique. Tentation, je l'intitule ainsi, que nous retrouvons aussi dans le poème que vous avez lu, par référence justement à ce légalisme, je dirais, du vin dans le monastère.
Cela dit, il y a la présence du vin d'une manière très forte, d'une manière symbolique très forte. C'est un des premiers grands soufis qui est évidemment Hallaj. Le divan de Hallaj au Xe siècle est également un divan où le vin est fortement présent. Il est présent avec toutes ses significations, avec toutes ses projections symboliques. On peut dire que l'un des principaux supports de l'imaginaire mystique en islam est véritablement le vin comme liquide sacré. Et dans le poème de Hallaj, très souvent, le vin est annonciateur.
du sacrifice.
Il est associé au sacrifice.
Qui sera celui, en effet, de nature christique, que connaîtra Halad lui-même quand il sera condamné, comme on sait, et
crucifié.
Notamment à être crucifié et à avoir les bras et les jambes coupées avant que le corps ne soit brûlé et ses cendres jetées dans le Tigre.
Tuez-moi, ami fidèle, c'est dans mon meurtre qu'est ma vie. Ma mort est dans ma vie dans ma mort. L'abolition de mon être est pour moi glorieuse grâce, et la durée de mes attributs, détestable ignominie. Mon âme est dégoûtée de ma vie dans les vestiges érodés. Tuez-moi donc et brûlez-moi dans mes eaux périssables, puis passez près de mes restes parmi les tombes qui s'effacent. Vous trouverez le secret de mon aimé dans les plis de celle qui demeure. Je suis un vénérable vieillard du plus haut rang, et je me fis enfant dans le giron des nourrices, habitant le creux d'une tombe dans des terres salées. Ma mère a enfanté son père, voilà une de mes merveilles. Et mes filles, après avoir été mes filles, sont mes sœurs. Point sous l'effet du temps, non, ni pour fait d'adultère. Mets donc ensemble les parties prises des corps de lumière, de l'air comme du feu, ainsi que de l'eau pure. Sème le tout dans un sol de terre inculte. Prends-en soin en l'arrosant de coupes qui circulent entre des servantes verseuses et des rigoles courantes. Au terme de 7 jours, toute plante germera.
Pour revenir à la thématique du vin, rappelons qu'elle a été initiée très tôt, dès avant d'Al Hallaj. Nous la retrouvons déjà chez Rabi al-Adawi, qui est une des toutes premières voix du soufisme, une femme de surcroît, qui a vécu au 8e siècle, à la seconde moitié du 8e siècle, dans le milieu bassrien, c'est-à-dire la Bassora actuelle, au sud de l'Irak, de la Mésopotamie. Elle a des dits extrêmement audacieux que la tradition lui attribue à l'adresse de la Kaaba, le fameux cube donc, qui se trouve au centre du temple à la Mecque et autour duquel tournent les pèlerins. Elle dit ceci: « Idole adorée sur terre, il ne l'a jamais quittée et pourtant il n'y a jamais pénétré. » Le « il », évidemment, c'est toujours la troisième personne, « l'Rab », qui veut dire « l'absent ». Cette même Rabi al-Adawiya a introduit aussi le thème de l'ivresse, mais face à ce courant de l'ivresse, il y a eu aussi le courant de la lucidité, le « sahar », le grand maître étant Junaïd de Bagdad, un des immenses mystiques de l'école de Bagdad, qui lui, alors là, est contre, justement, ce soufisme de l'ivresse.
Là, vous touchez à quelque chose qui me paraît extrêmement important dans le soufisme, c'est cette espèce d'obsession de la ligne, de la frontière. Les grands soufis sont toujours à cheval sur une réalité ambiguë. Il y a évidemment le corps, il y a l'âme, il y a le débat du corps et de l'âme. Mais au-dessus de l'âme, il y a l'esprit, n'est-ce pas ? Il y a un débat entre eux. L'âme et l'esprit. Et la finalité de l'esprit, c'est Dieu. La centration du spirituel est en Dieu. Il y a des stations, différentes stations, qui sont autant de degrés, autant de formulations d'une progression intérieure qui doit aboutir finalement à l'effacement du corps au bénéfice de l'âme, à l'effacement de l'âme au bénéfice de l'esprit. Et il y a une image qu'on a vue tout à l'heure dans le poème du vin d'Omar ibn Farid, qui est une image cosmique. L'esprit est symbolisé dans sa splendeur, son éclat d'absolu par le soleil. mais le soleil ne se dévoile pas aux yeux des croyants, parce que, évidemment, s'il se dévoilait aux yeux des croyants dans toute sa splendeur, dans tout son feu, il les aveuglerait. Il est voilé, il est comme Dieu, il est voilé de 70 voiles ou 700 voiles ou 70 000 voiles, dit la tradition mystique musulmane. Et c'est donc souvent la lune qui va servir d'intermédiaire. La lune, c'est précisément celle qui recueille en quelque sorte la lumière du soleil pour la répercuter indirectement sur l'âme du croyant. Et la lune, qui est tellement présente dans la poésie des Arabes, est d'une certaine façon une sorte d'épiphanie de la spiritualité à travers une de ses incarnations possibles et à travers notamment la médiation de la beauté. Dieu est beau, il aime la beauté, dit un hadith du prophète, et par conséquent, on peut dire qu'une des modulations de Dieu est précisément par la projection des qualités divines dans le visible, qui est de la sorte empreint de la beauté de Dieu, et c'est tout le sens de cette formule constante, récurrente dans le Coran, le monde est une sorte de tapisserie d'ayat divine. Qu'est-ce qu'une ayah ? Une ayah est une apparition ou une apparence visible, mais qui porte témoignage par sa beauté justement, ou par sa grandeur, contempler un ciel nocturne, ou contempler la beauté du retour d'un troupeau dans le soir, dit le Coran, ou contempler les montagnes violettes au loin, cette sorte de présence de la beauté dans l'univers visible est en même temps une indication de l'invisible. L'islam, on le sait, refuse les icônes, refuse les images, mais d'une certaine façon, la ayah est une sorte, oserais-je le dire, d'icône intemporelle, d'icône à la limite du visible et de l'invisible, qui est une induction vers Dieu. De quel côté que tu te tournes, là est la face de Dieu. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les navires qui parcourent les mers avec ce qui est utile à l'homme, dans la pluie que Dieu fait descendre du ciel pour rendre vie à la terre qui était morte et répandre sur elle toutes sortes d'animaux, dans le changement des vents, dans les nuages qui sont astreints au service entre le ciel et la terre, dans toutes choses, il y a des signes, des ayats, pour ceux qui comprennent. Surat 2, le verset 115 et 164. Et là, nous sommes au cœur du débat, et c'est là, probablement, c'est là même sûrement, que la méditation soufie sur le monde et sur les chemins transversaux qui vont vers Dieu prend sa naissance.
C'est d'ici que la lune s'est montrée fidèle. Jamais nous ne pourrons nous en aller d'ici. C'est ici que notre âme a trouvé de quoi vivre. Pour les deux yeux, l'émerveillement est ici. Ici, nos pieds se sont incrustés dans la boue. Comment pourrions-nous donc les retirer d'ici? C'est ici que nos cœurs se sont tournés vers Dieu. Mon Dieu, ne fait sortir aucun de nous d'ici. C'est ici que la mort n'a pas le moindre accès. Sache-le bien. La mort est écartée d'ici. D'ici, tu as surgi tout comme le soleil. Tu nous as éclairés en jaillissant d'ici. Pour l'âme, c'est la joie, la fraîcheur, la liesse. Et l'immortalité, elle la trouve ici. Une nouvelle fois, ôte pour nous le voile. une nouvelle voie apparaît-nous d'ici. Ici coule le vin qui jamais ne tarit. Et chansons, verse-nous du vin tiré d'ici. C'est la source de l'eau qui confère la vie. Ton outre porteur d'eau, emplis-la, puise ici. C'est ici que nos cœurs ont vu pousser leurs ailes. Et notre intelligence a pris son vol d'ici.
Salah Sitier, nous vous entendons comme poète dans cette approche et dans ce rapport avec le soufisme. Nombre de poètes arabes actuels cherchent, je dirais, à entrer dans cette énergie poétique qu'on trouve dans le soufisme. Énergie due essentiellement à cet enchantement, au réenchantement du monde, tel que vous l'avez rappelé dans la méditation des phénomènes destinés à percevoir l'être. En dehors donc de cet aspect, je dirais, entre guillemets, panthéiste, il y a, je dirais, la dimension même de cette expérience de l'extrême, de cette expérience de la limite qui peut passionner nos contemporains et que nous retrouvons chez Soufi. Nous savons qu'un certain nombre de poètes et un certain nombre
des meilleurs et
œuvres poétiques ont été inscrites sous l'égide de tel ou tel soufi. Je pense notamment à la manière avec laquelle on a essayé de situer poétiquement comme expérience justement de l'extrême, à l'intérieur même de la création moderne, un texte comme celui de Nifari. Nifari, ce Mésopotamien qui a vécu sur les rives du Nil au Xe siècle et qui a produit un texte absolument inouï, dans ces stations, justement, dans ces haltes devant Dieu, où il donne sa propre parole, sa puissance langagière, dans la bouche de l'absolu.
Votre description et votre approche de la poésie arabe contemporaine me semble tout à fait justifiée, dans notamment les rapports que cette poésie veut avoir doublement avec l'originel. L'originel, c'est d'une part les mythes premiers de l'Orient, le mythe d'Adonis ou le mythe de Tammuz, c'est-à-dire du dieu mort, de qui la mort est l'occasion d'une résurrection.
Là, nous retrouvons la partie qui concerne, je dirais, Fraser, le Ramodor,
par exemple,
et évidemment l'exploitation aussi poétique de tout ce fond mythologique chez quelqu'un comme Eliot.
Par exemple. Mais en même temps, c'est aussi la dialectique du soufisme, l'idée qu'il faut arriver au fana, à l'extinction, pour qu'une résurrection soit possible, une résurrection qui soit en même temps une modification substantielle. Ce qui caractérise, au fond, les soufis, et cela mérite d'être souligné, c'est que, contrairement aux autres croyants qui obéissent à la loi, qui obéissent à la règle institué par le Coran ou par la Sunna, c'est-à-dire par la pratique prophétique, c'est que eux sont des voyageurs. Ce sont des gens qui ne veulent pas rester en place ni sur place, qui veulent se déplacer le long du rayon de la circonférence, la circonférence étant le monde, pour arriver au centre qui est Dieu. Et cette succession de déplacements, ce sont les haltes et les stations que nous avons évoquées tout à l'heure. Mais ce déplacement vers le centre est un retour vers l'origine, l'originel, c'est-à-dire vers ce qui a été le point d'impulsion de l'être. Et il y a entre cette espèce d'approche de l'originel et la volonté de retrouver dans cette approche les signes majeurs par lesquels s'exprime la beauté de l'être, une sorte d'unité, je dirais, de vœux, une sorte d'unité de démarche. Il ne faut pas oublier que un des bons noms de Dieu, c'est Al-Badi'. Et Al-Badi', c'est à la fois celui qui est à l'origine, et c'est aussi celui qui est merveilleux. Et à travers la roche du point central, les soufis ont une double vocation.
Poétique et esthétique, donc, finalement, tout autant que métaphysique. Esthétique,
autant que ontologique et métaphysique. Tout en récusant la personne en tant que telle, au sens grec du mot. L'islam, et là il y a l'ambiguïté, en fait, encourage beaucoup la recherche personnelle. Je voudrais citer cette ayah qui est souvent reproduite sur précisément cette volonté d'originalité ou d'originalité de l'homme au sein d'un groupe et du groupe au sein de la communauté telle que la formule le Coran. Nous avons donné à chacun d'entre eux une loi et une règle. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait, chercher à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes adresses. Votre retour à tous se fera vers Dieu, il vous éclairera alors au sujet de vos divergences. C'est une ayah, c'est la ayah 48 de la sourate 5, qui est tout à fait remarquable.
Vous signalez, Salah Stiti, cette prédisposition scripturaire dans laquelle va pénétrer le soufi pour l'élargir et l'approfondir, cette reconnaissance par le soufi, qui, que je sache, reste soufi musulman, reconnaissance des autres croyances. Et j'aimerais bien, là, Salah Stiti, que vous nous lisiez un des poèmes, et ils sont très très nombreux, qui parlent justement de cette reconnaissance des autres croyances, de la visite de la scène des autres croyances par le sujet musulman en tant que spirituel, en tant que soufi, que vous nous lisiez le poème, par exemple, du poète anatolien Younes Emre du XIIIe siècle, et que vous nous le commentiez par la suite.
Je vous en lirai un extrait, en tout cas. Younes Emre est un disciple de Celaleddin Rumi, donc c'est, lui aussi est un poète du XIIIe, XIVe.
Dans une voie, je dirais, plus barde, plus populaire.
Oui, absolument. Il a utilisé un langage beaucoup plus directement accessible au grand nombre que Celal, qui est un artiste extrêmement raffiné. Mais
la langue turque, oui, la plus vernaculaire, celle du paysan anatolien, dans, oui, laquelle s'est exprimé Younes Emre.
Avant de vous citer ce passage de Younes Emre, je voudrais, pour dire l'espèce de climat d'amour universel dans lequel baigne la poésie soufie, vous rappeler ce très beau quatrain, cette roubaïa, du maître, justement, de Younes Emre, qui est Celaleddin Rumi. Du néant est partie notre caravane porteuse d'amour. Le vin de l'union illumine éternellement notre nuit. De ce vin que n'interdit pas la religion d'amour, nos lèvres seront humectées jusqu'à l'aube du néant. Et donc, dans cette espèce de tradition d'ouverture universelle, d'ouverture cosmique, s'inscrit plus humblement ce poème de Younes Emre, dont je vous citerai un extrait. Ô mon âme, ô toi lumière qui descend, ne t'éloigne pas, ô mon amour, ô toi, vision éclatante, ne t'éloigne pas, ô, ne t'éloigne pas. Vrai Parsi et vrai Brahman, chrétienne et pourtant musulmane, toi en qui je crois, comme je crois en la justice, ne t'éloigne pas, ne t'éloigne pas. Dans toutes les mosquées, les pagodes, les églises, je trouve le même sanctuaire. Ton visage y est ma seule voie. Ne t'éloigne pas, ou ne t'éloigne pas. Vous vous souvenez de cette espèce de circonférence sur laquelle sont situés les soufis, vieille image, vieille parabole.
Que nous retrouvons aussi dans la Vita Nova de Dante, par exemple. Oui.
Dans Pascal. Avec au centre ce point qui en fait n'est rien et tout, le centre de la circonférence, qui est Dieu, et
puisqu'il est équidistant à tout point de la circonférence, justement.
Et les soufis peinent sur les rayons de la circonférence pour arriver, chacun selon son rythme propre, selon sa personnalité propre qui est destinée à s'effacer, comme on l'a dit, pour arriver vers le centre. Mais remarquez que, au centre, qu'est-ce qui se passe ? Tout converge. Plus vous êtes près du centre, plus vous êtes un point de convergence. Et par conséquent, il n'y a, à mon sens, rien que du très logique à voir que ces grands spirituels, que ces grands mystiques puissent cohabiter et même plus communiquer entre eux au point où ils vont tous, chacun pour ce qu'il est, au point où ils vont se perdre ou se retrouver comme on veut dans ce foyer brûlant de l'incandescence divine.
C'était les chemins de la connaissance proposés par Abdelwahab Meddeb, aujourd'hui le vin mystique avec Salas Tétier, texte dit par Violaine de Carnet et Thierry Hamon, mixage Noélie et Marie, réalisation Olivier Coppin.